Le Théâtre La 16e rouvre ses portes pour la saison 2021-2022. Pour cette raison, on vous invite en coulisses pour écouter des rencontres inédites avec les artistes des spectacles qui arpenteront nos scènes tout au long de l'année. En coulisses, le podcast du Théâtre La 16e, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue en coulisses au Théâtre La 16e. Mon invitée d'aujourd'hui, on l'aime beaucoup. Elle est autrice et finissante du programme d'écriture dramatique à l'École Nationale de Théâtre. Ses pièces sont traduites et jouées un peu partout dans le monde, comme « Deux ans de votre vie », qu'on avait monté au Théâtre La 16e, un texte qui lui valut le prix BMO auteur dramatique en 2010, ou « Gamette », on avait reçu une production des Biches Pensives au Studio 16 et qui lui avait valu le prix de la critique du meilleur texte dramatique à Montréal en 2017, mais aussi Les Filles du Saint-Laurent qui vient d'être jouée à La Colline à Paris ou Ceux qui se sont évaporés, une pièce récompensée par le prix Michel Tremblay de la Fondation du Centre des auteurs dramatiques. Elle est autrice en résidence à la Licorne, puis anime et écrit le Lexique de la polémique, une série diffusée à Savoir Média, et ce n'est que le début d'une longue liste. Mais cette saison, c'est elle qui adapte son propre texte, Le merveilleux voyage de Réal de Montréal, pour une tournée dans les écoles de l'Ouest du Canada, une adaptation qui s'appelle Le merveilleux voyage d'Inès de l'Ouest. Elle est ici pour nous en parler, je suis très content de la recevoir. Bonjour Rebecca Deraspe.
Allô!
Tout d'abord, ce magnifique parcours que tu mènes, est-ce qu'on peut le qualifier d'un merveilleux voyage?
Oh, que c'est beau! Oui, écoute, j'ai très, très conscience, en fait, du privilège que j'ai eu en sortant de l'École nationale de théâtre. Je n'ai jamais eu à aller travailler dans des restaurants ou faire autre chose que le métier que je voulais faire. Donc, je me sens vraiment privilégiée, puis... j'ai un parcours qui me rend fière, mais que j'ai pas l'intention non plus de m'asseoir sur, c'est-à-dire je continue à travailler fort, puis à chaque nouvelle pièce de théâtre que j'écris, j'ai l'impression que j'y arriverai pas, puis tu sais, c'est toujours le même processus, donc voilà.
Ce projet dont on parle aujourd'hui, ça commence avec la version québécoise Le merveilleux voyage de Réal de Montréal, qui lui-même est inspiré du merveilleux voyage de Nils Holgersson, un livre suédois de l'autrice Selma Lagerlöf, qui d'ailleurs est la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Je viens d'apprendre ça. Un livre qui date du début du 20e siècle. Tu peux nous parler un peu de cette découverte de ce livre et qu'est-ce qui t'a amené à écrire le merveilleux voyage de Réal de Montréal?
En fait, à l'époque, c'est une des premières pièces que j'ai écrites en sortant de l'École nationale de théâtre. Le directeur artistique du théâtre de la Petite Marée à Bonaventure, en Gaspésie, m'a dit « Lis ça, je pense que ça pourrait faire une bonne pièce de théâtre ». Et parallèlement à ça, il y a Jasmine Dubé, une grande autrice de théâtre jeune public au Québec, qui était intéressée à travailler avec moi et qui était... très admirative de la plume de Selma Lagerlöf. Donc, le théâtre de la Petite Marée et le théâtre Bouche décousue se sont comme alliés donc, c'est pour vraiment faire une coproduction de la pièce que j'allais devoir écrire. en lisant le livre, ce qui m'a le plus charmée, en fait, dans la démarche de cette grande écrivaine, c'était son désir, en fait, de faire découvrir la géographie de son pays aux enfants, mais de façon ludique. Donc, moi, je me suis dit, OK, ben, je vais reprendre, en fait, cette idée-là et je vais essayer de faire découvrir aux enfants qui seront présents dans la salle le territoire du Québec. Parce que, à la base, ben, ça se passait au Québec. Et j'ai repris, en fait, ce désir-là pour faire l'adaptation du merveilleux voyage d'Inès de l'Ouest. Donc, c'est vraiment, c'est ça, de montrer aux enfants, par le biais de l'imaginaire, le territoire sur lequel ils habitent.
Et c'est pas ton seul texte écrit pour le jeune public. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce public?
Et personnellement, je le traite comme un public d'adultes, c'est-à-dire que ça change rien à ma façon d'écrire, ça change... les considérations de temps sont peut-être plus importantes, parce que là, ici, je sais pas comment ça fonctionne dans l'Ouest, mais ici, les autobus scolaires attendent à la porte des théâtres, puis là, on ne peut pas dépenser une heure, parce que sinon, blablabla. Fait que c'est plus ces considérations-là qui sont plus préoccupantes. Mais sinon, vraiment, pour moi, c'est le même travail que d'écrire pour un public adulte, c'est-à-dire, on veut des gens dans la salle qui se font raconter une histoire et qui réussissent à réfléchir au monde dans lequel ils vivent, en plus de se faire raconter une histoire. Donc, pour moi, c'est vraiment... c'est ça qui est à la base de mon travail. Puis ça reste le même mouvement d'écriture, même quand c'est enfant, adulte ou même adolescent. Après, c'est sûr que tu te demandes qu'est-ce que tu as envie de dire à des enfants ou qu'est-ce que tu as envie de dire à des adolescents ou qu'est-ce que tu as envie de dire à un grand public, mais au niveau vraiment de la rigueur de travail, c'est la même chose.
Et est-ce que, là, je t'entends dire, ça dépend ce que tu as envie de dire, est-ce que tu veux parler des mêmes sujets, tu veux traiter des mêmes sujets de façon différente entre les deux publics ou tu permets
d'aller
dans des sujets différents?
Je pense que je traite des mêmes sujets, mais... En adoptant une posture différente, bien sûr. Par exemple, j'ai écrit une pièce qui s'appelle « Je suis William », qui s'adresse à un public adolescent. Et c'est une pièce qui parle de féminisme et d'écriture. T'sais, donc, c'est très niché comme prise de parole, mais au final, ça a donné une pièce qui a touché énormément les adolescents qui se sont sentis interpellés parce que de la façon qu'on l'a fait, ben on était conscient, oui, du public auquel on s'adressait, même si les thématiques étaient plus pointilleux puis ardues. Et le pari a été gagné. Donc, pour moi, je pense que vraiment, on peut dire ce qu'on veut aux adolescents ou aux enfants. Après, c'est juste de le prendre sous un angle qui va les intéresser.
Dans le merveilleux d'Inès de l'Ouest, c'est le personnage d'Inès, une petite canaille qui s'apprête à commettre un nouveau forfait. Elle se heurte à un adversaire, un soir, un lutin qui s'appelle Jacob, qui la transforme instantanément en toute petite fille, haute comme trois pommes. Puis emportée par une oie sauvage, c'est le début d'une longue aventure pour Inès. Avec cette version qui est adaptée spécialement pour nous ici dans l'Ouest, Inès parcourt les provinces, elle part de l'île de Vancouver jusqu'aux Rocheuses, partout entre les deux. Est-ce que tu peux nous parler du processus? Est-ce que tu as voyagé pour voir un peu tout ce monde-là ou comment est-ce que tu as fabriqué ce voyage?
Malheureusement, non! C'est en fait avec la metteur en scène de la pièce.
Émilie Leclerc.
Ouais. On s'est assise et puis on a discuté parce qu'elle habite Vancouver. Et donc, on s'est assises, puis on a vraiment parlé de, bon, ben, quels lieux sont les plus susceptibles à la fois de parler du territoire de l'Ouest et d'intéresser ses enfants qui seront spectateurs de la pièce. Donc, c'est vraiment, je te dirais, Émilie qui m'a dit, elle devrait aller à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Puis moi, après, ben, devant mon ordinateur, je voyage. C'est-à-dire que je vais regarder, je m'informe sur ces lieux-là, je regarde de quoi ça, qu'est-ce que le paysage dégage, qu'est-ce que c'est l'histoire de ces lieux-là. Mais tu sais, bien sûr que j'aurais voulu aller dans tous ces endroits m'inspirer de l'air que j'aurais respiré. Mais bon, j'ai pas eu cette chance-là, mais c'est ça. C'est vraiment avec la complicité d'Émilie que j'ai réussi à je pense, faire des choix qui sont hyper en adéquation avec les lieux névralgiques de l'Ouest.
J'aimerais juste revenir un peu à ton style d'écriture que j'adore, qui est souvent engagé, qui est pleine de punch, de mouvement, qui est assez... c'est des courtes phrases d'habitude où il y a de l'action. Est-ce que tu trouves ça... Moi, je trouve ça idéal, en fait, pour ce théâtre jeune public. Ça garde en mouvement tout le long de la pièce. Mm-hmm. Est-ce que tu te sens que tu dois t'adapter... Je reviens un peu à ton processus, t'adapter au niveau de l'écriture elle-même pour le jeune public?
C'est une très bonne question. Je pense que il y a en moi le même désir de donner à des acteurs des partitions qui vont être faciles à mettre en bouche, avec une oralité théâtrale réelle, que ce soit dans un théâtre pour adultes ou un théâtre dit pour enfants. Il y a peut-être, je me permets étrangement, plus de ludisme quand c'est du théâtre pour enfants, dans la langue. Il y a plus de petits jeux avec les mots, de jeux avec la langue, parce que j'ai l'impression que c'est un public qui va être peut-être plus touché par ce genre de langue. Ce que je me permets moins dans le théâtre pour adultes, parce que des fois, je trouve que ça fait... Quand on sent trop l'écriture de l'auteur, personnellement, au théâtre, moi, ça me dérange. T'sais, j'ai envie d'entendre des personnages. J'ai pas envie nécessairement d'entendre un auteur qui me parle. Donc, voilà. Mais ça, c'est personnel, hein. Puis, je suis sûre que dans certaines de mes pièces, on m'entend carrément parler. Donc, mais mon désir profond, c'est vraiment de faire parler des personnages.
La pièce, en fait, devait partir en tournée une semaine avant le début de la pandémie. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est dans ce monde-là. Comment ça a été pour toi? On dirait que pour une autrice, c'est peut-être idéal. On est coincé à la maison, on a tout le temps pour écrire. Est-ce que ça a eu cet effet-là ou à l'inverse? Absolument. Pas du tout?
Absolument. L'inverse total! Non, mais parce que... Moi, quand c'est arrivé, j'ai perdu 5 productions, là, tu sais, j'avais 5 productions en cours, donc j'ai perdu du jour en main 5 productions, puis l'écriture, c'est vraiment, je trouve, un moment de où il faut avoir une grande patience pour, comment l'expliquer, pour la rencontre avec le public, tu sais, la douleur, entre parenthèses, de l'écriture, là, je la mets entre parenthèses parce que c'est une forme de douleur pas si pire que ça, mais quand même, est tolérable parce que tu sais que tu t'en vas à la rencontre d'un public. Donc, quand moi, j'ai tout perdu ça, j'étais comme vraiment, ça m'a pris du temps de faire le deuil de toutes ces productions-là. Donc, j'étais vraiment pas dans une posture... favorable à l'écriture, au contraire, là, j'étais plutôt version patate de mon existence. Mais c'est revenu et là, les théâtres réouvrent et on sent que quelque chose recommence à circuler. Ce que j'ai beaucoup fait pendant la pandémie, c'est que je me suis mis à écrire des statuts Facebook. Là, ça a l'air un peu... gnant. Mais pour vrai, ça me puis j'ai des statuts Facebook là, travaillés, là, tu sais, poétiques avec un propos, puis j'essayais de vraiment construire des mini textes, puis ça me permettait en fait de garder ce qui m'apparaît le plus essentiel dans mon processus d'écriture, c'est-à-dire la rencontre avec l'autre. Donc ça m'a beaucoup aidé.
Je veux en venir à ces statuts Facebook. Tu es une artiste qui est assez engagée pour la cause du féminisme et de l'équité des femmes dans le monde du théâtre, surtout au Québec. Avec un peu de recul de ces 2 années-là, est-ce que tu as vu un peu un changement depuis ta prise d'engagement ces dernières 10 années du mouvement de l'équité au théâtre pour les femmes?
Moi, je trouve que oui. Après, peut-être que je suis plus optimiste que d'autres personnes. Mais ceci dit, ce que j'observe autour de moi, il y a eu énormément de... je trouve de on a installé certaines façons de fonctionner qui font en sorte que on donne beaucoup plus d'espace aux autrices, aux metteuses en scène, mais par contre les théâtres sont encore majoritairement dirigés par des hommes, mais tu sais, je trouve que les choses progressent, mais tu sais, c'est sûr que moi je parle de par mon regard et de ma position de femme privilégiée parce que mes textes sont montés, donc je peux pas, c'est hyper délicat parce que je suis certaine que c'est pas tout le monde qui peut parler comme je parle, c'est-à-dire de façon positive parce qu'ils sont pas montés, tu sais, fait que c'est un drôle d'endroit vraiment pour me prononcer, mais il me semble que ça s'est amélioré vraiment. Qu'il y a plus, c'est ça, de paroles de femmes sur nos scènes québécoises.
Et cette prise de parole, tes textes que tu écris, comment est-ce que tu choisis tes sujets? Comment est-ce que ça devient? Comment est-ce que tu décides, ah tiens, là, je vais écrire une pièce de théâtre là-dessus?
Ça dépend vraiment de chaque projet. Des fois, j'ai eu énormément de commandes dans ma vie, c'est-à-dire une compagnie de théâtre qui me dit « Ah tiens, on a envie de t'écrire sur XY. » Je viens de finir une pièce sur Banksy, mettons. Puis ça, c'est une commande. Et sinon, quand c'est vraiment une pièce qui vient de moi, comme mettons ceux qui se sont évaporés, c'est vraiment une pulsion très, très personnelle. C'est une obsession. C'est quelque chose qui commence à m'obséder. Là, c'était les gens qui disparaissent de leur vie, qui s'évaporent. Des dispersions volontaires. Là. Puis ça s'est mis à m'obséder. Il y a eu un fait divers qui est arrivé au Québec d'une fille qui est comme disparue puis qui a été retrouvée en Saskatchewan. Et là, ça m'a vraiment comme full habité. Puis là, j'ai commencé à lire là-dessus. Puis j'ai commencé à confronter mon obsession à des œuvres, à des essais, à essayer d'approfondir vraiment pourquoi je me sens comme ça, pourquoi ça m'obsède comme ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis ça a donné la pièce. Fait que c'est vraiment, ça dépend des projets, comme là, je suis en train d'écrire une pièce qui s'appelle « Les glaces », qui parle de la question du consentement dans une relation sexuelle. Mais c'est une pièce que j'ai commencée il y a 3 ans, quand hashtag MeToo était bien, bien présent, puis que j'ai mis un peu de côté pendant un temps, pendant 2 ans, puis je l'ai reprise, la pièce, cette année, pour la retravailler, puis là, tu sais, tu fais « Ah ouais, ok, non, je vois tellement plus les choses de la même façon, il faut tout réécrire parce que ça a tellement évolué. » Donc, tu sais, c'est ça, là, tu sais, ça dépend vraiment de chaque projet, mais je te dirais que les projets que j'initie, c'est vraiment parce que j'ai une obsession sur quelque chose que j'essaie de comprendre.
Ouais, ça, c'est intéressant aussi, cette question. Je l'ai posée à plusieurs artistes cette année, puis je suis confronté là-dessus. On sait que parfois, un processus, ça peut prendre peut-être 1 an, 2 ans. Est-ce que tu t'assures que le sujet va être contemporain dans quelques années? Est-ce que tu te projettes ou c'est vraiment dans l'immédiat, tu te sens quelque chose dans l'immédiat et t'espères que ça va durer le long du processus?
C'est vraiment dans l'immédiat. Je me pose pas vraiment cette question-là parce que sinon, je trouve que ça fait des pièces qui peuvent pas vivre, en fait, parce que l'actualité change tellement vite. Donc, je pense qu'il faut vraiment... En tout cas, personnellement, j'essaie vraiment de camper mes textes dans un réel émotif, tu sais, de avec des personnages qui traversent quelque chose. Donc, que ce soit... quand t'as des êtres humains qui doivent... affronter leurs failles ou affronter les failles de quelqu'un, tu sais, comme bref, ce que j'essaie de dire, c'est que j'essaie que j'ai le désir que mes textes soient universels et intemporels. Mais bon, tu sais, ça, avec la pièce, mettons, sur le consentement, bien sûr que là, c'est une autre affaire, mais je le prends pas genre bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de consentement. C'est des personnages qui vivent des confrontations, qui sont confrontés à eux-mêmes, etc. Puis ça peut pas. Ça peut pas passer date.
Est-ce que tu as déjà abandonné un processus en cours de route?
Non.
Non? Wow!
Non. Ouais. Ouais. J'ai une pièce que j'ai écrite quand ma fille avait 1 an et qu'elle a commencé à la garderie. J'ai écrit cette pièce-là en 2 semaines. J'étais vraiment comme... Faut que je parle de ça, de la maternité! J'ai trouvé ça vraiment très dur! Puis là, mais cette pièce-là... Je l'ai écrite, je l'ai conduite à sa fin, mais elle n'a jamais été produite au Québec. Elle a été produite en Suisse, mais jamais au Québec. Mais c'est ma seule pièce comme qui n'a pas vu le jour dans un théâtre au Québec. Sinon, ils ont tous été créés. C'est un immense privilège, là, t'sais, j'en suis reconnaissante. Merci la vie!
et quand on te demande, quand on te passe une commande... Est-ce que tu t'appropries le sujet? Est-ce que tu recherches, tu te crées une obsession dans ce nouveau sujet ou ça, c'est un point de vue un peu différent là-dessus?
J'ai pas le choix, en fait, de passer par moi, puis par mon filtre, puis par comment trouver ma voix là-dedans. Sinon, ça se sent, puis je trouve que ça fait pas des pièces chargées de la bonne façon, tu sais. Par exemple, Je suis William, la commande, c'était le metteur en scène m'a demandé d'écrire une pièce sur l'adolescence de Shakespeare. Puis là, moi, j'étais comme, ouais, OK, mais l'adolescence, tu sais, j'ai rien à dire, moi, sur l'adolescence de Shakespeare, je sais pas par où prendre ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, mettons, moi, j'étais née à cette époque-là, puis j'avais voulu écrire. En tant que femme, est-ce que j'aurais pu écrire? C'est comme ça qu'est née la sœur fictive de Shakespeare dans Je suis William, en fait, c'est sa sœur qui écrit les pièces de théâtre que Shakespeare sur lequel Shakespeare met son nom, parce que à l'époque, les femmes n'allaient pas à l'école, pouvaient pas lire, puis les femmes qui étaient éduquées, on pensait que c'était des sorcières, on les tuait et tout ça. Donc c'est vraiment quand j'ai trouvé cet angle-là, je suis rentrée dans la pièce. Donc et pour chaque commande, ça a été la même chose. T'sais, il a fallu que je ramène ça à moi et à mes questionnements, à mes obsessions, comme tu disais, et voilà. Mais oui, j'ai pas le choix.
Je suis William, enfin parmi tant d'autres, tes pièces sont un succès majeur, tu as reçu plein de prix. Je suis William a joué même au festival Stratford, c'est quand même un bel accomplissement. C'est quoi pour toi le succès de ton travail? Qu'est-ce qui te rend le plus fier? C'est les prix, le public, les festivals, les tournées, les shows dans le monde?
C'est le public.
Ouais.
Ce qui me rend le plus fier, puis c'est comme... Je reprends « Je suis William », mais quand, à la fin de la pièce, je sens qu'il y a des enfants ou des adolescentes ou des adolescents qui, à partir de ce jour-là, voient le monde un petit peu différemment, ça me bouleverse infini. Puis c'est pour ça que je fais ça. C'est sûr que gagner un prix, ça fait du bien. Puis monétairement aussi, c'est con, mais ça me permet d'écrire. Mais ça me permet de me concentrer sur ça, puis de pas devoir aller donner des cours tu sais, comme un peu m'éparpiller. Ce que je fais quand même, puis j'aime ça le faire, mais je le fais pas par obligation financière, parce que j'ai gagné des prix, mais c'est vraiment le rapport au public, mon vrai moteur et ma vraie fierté.
T'as sorti pendant la pandémie un super livre qui s'appelle « Combattre le YY ». Tu peux nous en parler juste une petite minute avant de te dire au revoir?
Oui. « Combattre le YY », en fait, c'est un recueil de textes que je faisais à l'émission « Plus on est de fous, plus on lit ». C'est une émission à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada. Il y a un segment le vendredi qui s'appelle Combat de mots. Donc, les deux auteurs invités reçoivent un thème, puis là, on fait des courts textes autour de ce thème-là, puis là, il y a quelqu'un qui gagne. Puis à un moment donné, je me suis dit, ah, mais là, tous ces textes que j'ai écrits, il faut en faire quelque chose. Et j'ai reçu une carte blanche de Philippe Lambert du Théâtre La Licorne qui m'a dit, ben, je te donne la salle une soirée, tu fais ce que tu veux. Donc, je me suis comme dit, je vais comme prendre tous mes mini-textes, je vais les faire, les interpréter, parce qu'il y avait ça aussi dans mon désir de me donner un défi, c'était d'être moi sur scène, parce que je suis une actrice refoulée. Et donc, j'ai fait une espèce de one-woman show avec tous ces textes-là, mais entre, il y a beaucoup, beaucoup d'humour, puis des adresses au public, puis une façon un peu de parler du monde avec un humour, mais aussi une certaine douleur. Et suite à cette soirée-là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, ça serait cool de le publier! » Puis j'ai fait « Ah, OK! » Puis on l'a publié. Voilà.
Eh bien, super. Vous pouvez retrouver le livre « Combattre le YY » en librairie. Et vous pouvez venir assister au merveilleux voyage d'Inès de l'Ouest de Rebecca Deraspe. On a une représentation familiale le 26 mars au studio 16 à 11h avant que le spectacle parte en tournée dans les écoles de Colombie-Britannique, d'Alberta et de Saskatchewan. Merci beaucoup, Rebecca.
Merci à toi.
Et à très bientôt, tout le monde. Au revoir.